Et en fait, le titre de... Je vais juste survoler, excusez-moi, les points qu'on avait vus ensemble la semaine dernière, qui étaient de dire que Dieu avait un plan depuis le début. Et Pâques, c'est la résurrection. On est quelques jours après la mort de Jésus. Et ce que vous devez simplement comprendre, c'est que Dieu avait inculqué dans l'histoire du peuple juif le fait qu'il devait, si tu veux, peut-être juste enlever cet écran-là, mon ami. Ouais, c'est ça. Yes, voilà. C'est que Dieu avait un plan depuis le début. Et en fait, si tu mets la slide juste après, les Juifs, de façon permanente, ils fêtent autour d'un repas. C'est symbolique, il fête le fait qu'il y a un agneau qui doit mourir et qui doit nous protéger. À l'époque, c'était l'ange de la mort qui allait frapper toute l'Égypte dont ils étaient esclaves. Vous pouvez regarder ça dans l'Ancien Testament. Et mon point est celui-ci, c'est que Jésus, il fête le repas de la Pâque avec ses disciples. Et toute cette symbolique que les Juifs, aujourd'hui même encore, font, toute cette symbolique autour de ce repas, c'est qu'il y avait un agneau qui allait être brisé, son sang allait devoir couler, et nous, en tant que chrétiens, nous croyons que cet agneau parfait, eh bien, c'était Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui a pris nos fautes. Et en fait, c'est toute la base même du christianisme. Et peut-être s'il y a des gens ici, vous venez pour la première fois, vous ne comprenez pas trop cette notion de faute, de sang versé. Puis, tu sais, ça peut penser un peu glauque, c'est du sang, le sang de l'agneau, c'est un peu barbare. Non, mais en fait, c'est très simple. Laissez-moi vous le présenter d'une autre façon. Il y a quelques années de cela, j'ai acheté une petite Peugeot. On est passé avec mon épouse de 205, une vieille Peugeot, à une Peugeot 206, mais un peu plus neuve, tu vois. Et c'était la première, voiture valable que nous avions, et donc, avec mon épouse Elisa, peu fortunés nous étions très fiers. Et à Paris, c'était la première fois que je me prenais un PV. Qui s'est déjà pris un PV ? Mauvais stationnement. Ce que tu n'as pas, Grenoble, mais ça se fait à Paris, tu as un espèce de petit papillon vert qui t'est mis sous l'essuie-glace. Et en fait, tu reçois, quelques jours après, le PV à la maison. J'ai mon frère ici qui est police municipale. Ça ne se fait pas ici en France, ça. Ça ne se fait pas, du moins, ça se fait ici. Ça marche comme ça. Ah. Alors, à l'époque, il fut un temps, je parle d'un temps où je ne suis pas très très vieux, mais vous vous rappelez qu'il y a 40 ans, tu pouvais aller à la police municipale, si tu connaissais quelqu'un, tu pouvais faire sauter le PV. Qui se rappelle de ce moment-là ? Yes ! Tu pouvais t'arranger avec soit le maire, un commissariat, ou ils pouvaient faire sauter le PV. Il y avait ce qu'on appelle une demande d'indulgence. Mais là, preuve en est, mon frère est là, il peut vous le dire, tout ça, c'est fini. C'était avant. Et tu reçois, donc tu as un petit papillon, et tu reçois à la maison un PV. Et moi, d'ailleurs, la première fois, je me suis dit, mais comment est-ce que ces mauvais agents municipaux ont pu verbaliser une si belle voiture, tu vois ? Mais je ne sais pas pour vous, mais à Paris, le stationnement, c'est particulièrement cher. Et moi, tu vois, tu mets genre 5 euros pour 2 heures, mais sauf que j'en avais toute la journée. Mais je ne sais pas si vous êtes comme ça, moi je mets quand même les 5 euros parce que je me dis que peut-être le policier municipal qui va venir, il va dire lui, il a fait au moins l'effort. Est-ce que vous pensez ça comme ça ? Tu sais, je me dis, tout le monde, ils ont pas, il n'y a personne qui a mis de l'argent, mais lui, au moins, il est bon. Sauf qu'un agent municipal, quand il passe, si c'est 18h01, tu prends une amende. Vous comprenez ? Et en fait, ce qui est troublant dans cette histoire, c'est que moi, je me rappelle avoir voulu mettre 20 euros de stationnement et avoir 5 minutes seulement de dépassement et j'ai pris 35 euros d'amende. Donc, résultat des courses, j'avais 55 euros. Tout ça parce que j'ai essayé d'être bon. Vous comprenez ? J'ai essayé de... Et en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que parfois, on essaye quelque part d'être bon, on essaye de faire des efforts, etc., etc. Et un jour, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que je ne reçois plus aucun PV à la maison. On venait de changer de voiture, donc là, on a passé de la 205 à la 206, et puis j'ai plus de voiture. Et je vois le papillon vert sur mon essuie-glace et j'en ramasse un. Je dis, oh là là, puis un deuxième, puis pas de courrier à la maison, puis un troisième. Et un matin, il venait de mettre un flash juste à côté de la maison. Et flash, bon matin, bien au réveil, là, j'étais bien flashé. Le problème avec les flashs, c'est que c'est le développement qui coûte cher, vous savez. Et je ne reçois pas de courrier à la maison. Et je dis, mais c'est quand même terrible. Et il y a un moment donné, comme je suis un bon citoyen, j'appelle la police. Je dis, écoutez, mais il y a quelque chose qui est quand même troublant et tout. Et je ne reçois jamais de... pourtant, j'ai beaucoup de fautes et d'infractions, mais je ne reçois jamais rien à la maison. Et la gentille dame qui me regarde, elle me dit, monsieur, c'est normal. Parce que je viens me voir dans mon fichier, quand on vous a vendu la voiture, le garage s'est trompé dans une lettre de votre plaque d'immatriculation. Je dis, mais comment est-ce que c'est possible ? Elle me dit, bah oui, en fait, toutes vos fautes, toutes vos infractions vont à quelqu'un d'autre. Et moi, je me rappelle, je disais, ouais, mais madame, mais comment est-ce que se fait ? Et moi, je lui dis, mais comment quelqu'un d'autre ? Mais attendez, mademoiselle, il va avoir mal, parce que si vous voyez tous les papillons verts que j'ai, il va payer à ma place, mais je lui ai dit, il va vouloir se suicider. Et elle me dit, écoutez, non, en fait, il va contester l'infraction, il faudra qu'il envoie une lettre comme quoi il n'habite pas Paris, et on lui enlèvera l'infraction. Et je lui dis, mais et c'est tout ? Elle me dit, oui. Mais je dis, mais mes infractions à moi, qui va les payer ? Mes fautes, mais qui va me condamner ? Où elles vont ? Elle me dit, écoutez, tant pis, il n'y a rien à faire, la seule chose que vous devez faire, c'est aller à votre garage et qu'ils réparent leur erreur et qu'ils mettent la bonne immatriculation. Au revoir, elle raccroche. Et en fait, ce qui est touchant dans cette histoire, c'est que comme si, dans la Bible, c'est comme si Dieu a mis des standards. Et nous sommes dans la vie en infraction vis-à-vis de lui. Vous êtes là ? D'accord ? Et quand vous décidez d'accepter Jésus dans votre vie, dans votre cœur, c'est lui, c'est sur lui que vont vos fautes et vos infractions. Vous êtes avec moi ? C'est ça la base du christianisme. Et en fait, la Sainte-Cène, littéralement, c'est quand tu t'associes à cette symbolique. Tu décides de croire et de prendre ce que Jésus a fait pour toi. Et nous croyons ici en tant qu'Église que ce n'est pas simplement à des gens baptisés, mais nous voulons ouvrir ce sacrifice à tout le monde à partir du moment où l'inclinaison de son cœur est d'aller dans ce sens-là. Et preuve en est, c'est que Victor a été touché avec cela. Et du coup, j'avance rapidement. On a regardé ensemble que Jésus, la prochaine slide, c'est que Jésus n'a pas changé son plan. Le dimanche dernier, on a vu ensemble que de très bonne heure, les femmes se rendent au tombeau apportant des huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrent que la pierre avait été roulée à une bonne distance de l'ouverture. Elles entrèrent dans le sépulcre. Elles trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus. Et elles étaient encore en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passait ? Et il y a deux personnages revêtus d'habits étincelants qui se tinrent devant elles. Et en les voyant tout effrayées, la tête baissée, elles leur dirent, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il avait annoncé, il était encore en Galilée. Ne vous disait-il pas ceci, excusez-moi ? Il faut que le Fils de l'homme, et ça, il parle de Jésus, soit livré entre les mains d'hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. En fait, ce que les anges sont en train de dire à Marie, c'est rappelle-toi, Dieu avait un plan, il l'avait dit. En fait, Dieu, il a une promesse dans ta vie et il va l'accomplir. Et je termine avec ceci. Il y a quatre, si tu mets la prochaine diapo, face à la résurrection, il y a quatre réactions. Il y a quatre, je dirais, quatre audiences, quatre publics, si je peux dire. Il y a premièrement ce qu'on appelle les nostalgiques. Quand on regarde l'histoire, vous avez l'histoire de Marthe et Marie qui sont allées au tombeau de Jésus, ces femmes. Elles sont fidèles parce qu'elles sont respectueuses de la loi, de l'héritage, de la religion. En fait, Jésus a été crucifié et quand vous lisez l'histoire, en fait, il manquait de temps à cause du fait qu'il allait venir le sabbat. Du coup, ils n'ont pas eu le temps d'honorer le corps de Jésus. Et donc, le lendemain, Marie et ses quelques femmes, elles veulent aller au tombeau, elles apportent des bandelettes et des parfums pour, quelque part, un rite funéraire, histoire d'honorer le corps de Jésus. Et parce que souvent, à cette époque-là, ces bandelettes, mélangées à des arômes, venaient quelque part contenir les odeurs. Le climat chaud de Judée faisait que il fallait qu'on mette une mise en terre très très rapide, et les bandelettes faisaient partie de cette préparation-là. Et ces femmes-là, en général, c'était soit des femmes ou des servantes qui devaient accomplir ce rite funèbre. Et elles prennent cela à cœur. Ça représente toutes ces personnes-là qui, quelque part, observent la loi, observent la religion et qui aiment ça. Et quelque part, dans leur cœur, elles sont très attentionnées vis-à-vis de Jésus, mais qui est mort. Vous êtes là ? Et en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et un peu en cette même façon, c'est que Jésus est ressuscité, mais quelque part, on vient parler à un mort. On n'a pas cette notion réellement qu'il est vivant et qu'il peut faire beaucoup de choses. Et du coup, la question sur laquelle j'aimerais revenir, c'est est-ce que vous venez à l'église par tradition ? Ok, je vais le redire. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église ? Est-ce que tu viens par tradition ? Est-ce que tu viens parce que c'est important pour toi ? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi ? Quand tu pries, est-ce que tu pries quelqu'un qui est mort ? Ou est-ce que tu pries avec une parfaite conscience que Jésus est vivant ? Vous êtes là ? Il y a également les contemplatifs à la résurrection de Jésus. Prochaine diapo. Le premier jour de la semaine, donc là, il y a ces femmes-là qui ont eu cette rencontre avec les anges, et les anges leur disent, mais écoutez, arrêtez de chercher un mort. Il est vivant, Jésus. Arrêtez d'être dans vos... Essayez de cette processus d'essayer de faire ce qu'on vous a toujours appris. Jésus est vivant. Et du coup, on l'a vu ensemble la semaine dernière, il y a Marie-Madeleine qui retourne voir les disciples. Elle vient, elle crie, elle dit, il est vivant. Il faisait encore nuit. Et elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple qui s'appelait Jean, que Jésus aimait. Il dit, on l'a enlevé le Seigneur de son tombeau et on ne sait pas où on l'a mis. Et Pierre et l'autre disciple sortirent. Donc c'était deux disciples de Jésus. Et regardez le texte. Ils se mettent à courir comme des malades, tous deux ensemble. Mais l'autre disciple court plus vite que Pierre. C'était Jean. Il arrive le premier au tombeau. Et se penchant à l'intérieur, il voit des linges posés à plat. Mais cependant, il ne rentre pas dedans. C'est comme s'il a peur. Il voit des linges posés à plat et le suaire qui avait recouvert la tête. Et il était comme roulé à part. Et l'autre disciple qui était Pierre, il rentre dans le tombeau le premier. Et Jean rentra lui aussi. Il vit et il crut. Du coup, Jean, il arrive le premier, il s'arrête, il a peur. Pierre, il est un petit peu plus téméraire, il rentre. C'est un gars, il n'a pas froid aux yeux, c'est même un impulsif, bien connu. Mais en fait, ce qui est touchant dans cette histoire, regardez-moi, c'est qu'il n'y a pas d'apparition d'ange. Il n'y a pas de grand truc extraordinaire. Regardez-moi, Jean est dans un tombeau, il n'y a rien, il y a seulement des linges qui sont enveloppés, et puis Jean, il dit « Waouh, c'est vrai !» C'est un truc de dingue. Il est vraiment ressuscité. En fait, Jésus est ressuscité. Il existe, c'est vrai. Et c'était des gens qui avaient, ses disciples avaient vu que Jésus pouvait guérir. Mais là, tout d'un coup, c'était vrai. Et il y a ce troisième. Du coup, la question que j'ai envie de poser, encore une fois, est-ce que toi, tu es un petit peu comme Jean, tu es un peu contemplatif et tu as besoin de... Je dirais de tout simplement prendre conscience que Jésus n'est plus là, mais qu'il est vraiment au ciel. Et je termine avec ceci. Pierre, on l'a vu la semaine dernière. Pierre, c'était quelqu'un, vous savez, c'était un téméraire, c'était un fonceur. Et Pierre, il a renié Jésus. Et Pierre, en fait, à ce moment-là, il n'est pas dit qu'il croit. Pierre, il a comme du... Ouais, il est un peu comme du mal. Et en fait, il y a cette scène magnifique dans Jean 21. Il y a un moment d'intimité où Jésus vient le rencontrer. Et là, Pierre, il est démoli, il est brisé émotionnellement. Et Jésus va le reconstruire. Et Pierre, tu sais, c'est un gars, il avait dit, il dira à Jésus, même si tout le monde t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas. C'était quelqu'un qui avait des très hautes prétentions vis-à-vis même de lui-même. Et là, c'est comme si tout d'un coup, il a un naufrage identitaire. Il ne sait plus qui il est. Et même, il reva à son ancien business qui était la pêche. Et il a honte, il y a une honte qui l'écrase. Et là, ce qui est touchant, c'est que Jésus vient prendre un moment et il lui dit, où est-ce que tu en es par rapport à ce que je veux faire dans ta vie ? Où est-ce que tu en es par rapport à l'appel ? Où est-ce que tu en es par rapport à ce que je voulais faire avec toi ? Et parfois, il y a des gens, peut-être vous vous sentez comme ça, vous vous sentez complètement indigne, il y a un blocage qui est à l'intérieur de vous et vous ne savez pas comment aller un peu plus loin. Et le dernier qui est très touchant, c'est Thomas, le quatrième public. Thomas, c'est le sceptique, vous vous rappelez, le saint patron des incrédules. Thomas qui ne croit pas, lui, il a besoin de voir pour croire. Et peut-être vous êtes dans comme Thomas. Et si tu mets la dernière slide, tant pis, je lis le texte pour vous. Il dit, 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis et Thomas se tint avec eux et Jésus. Alors que les portes étaient verrouillées, Jésus vient au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Et puis il se retourne vers Thomas. Thomas, tu sais, c'était un gars qui avait, pourtant il avait marché avec Jésus, il avait vu plein de miracles que Jésus avait fait. Et Thomas doutait, Thomas ne croyait pas, il s'est comme fermé, il dit non, mais il dit moi je croirai que si vraiment c'est lui qui vient me voir. Et c'est comme si Jésus vient et il vient le rencontrer dans ses doutes, dans ses questionnements, dans ses peurs. Et il lui dit Thomas viens, il dit n'aie pas peur, il dit avance tes mains, mets-les dans mes blessures, ne sois pas incrédule mais crois. Et il lui dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Et à ce moment-là, Thomas dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et peut-être que vous êtes comme parmi ces quatre publics. Peut-être qu'il y a des nostalgiques ici qui viennent à l'église, qui sont accrochés au passé. Et j'aimerais que vous vous posiez la question, pourquoi est-ce que vous venez à l'église réellement? Pourquoi est-ce que vous venez ici, dans cette église-là? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous êtes également comme Pierre, qui est un peu un naufragé, qui est démoli intérieurement, qui est complètement perdu dans sa vie, et pourtant Jésus vient et il le restaure? Est-ce que vous êtes comme Thomas, qui est désenchanté, peut-être qui ne croit pas plus, en tout cas, et c'est comme si Jésus vient, il le voit, et il a une rencontre, il a un face-à-face avec lui. Et j'aimerais qu'on prie ensemble et qu'on fasse à nouveau ces petits groupes de prière pour que vous puissiez entrer dans cette résurrection, que vous puissiez rentrer dans le tombeau et que vous puissiez être juste touché dans votre cœur en disant waouh, en fait, le Dieu dont on parle, il n'est pas mort, il est vraiment ressuscité. C'est la base même, c'est le centre même du christianisme, parce que si vous enlevez ça, toute la foi chrétienne, ce n'est qu'une chimère, il n'y a plus aucune valeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et puis du coup, j'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et j'aimerais qu'on puisse, je ne sais pas, parmi ces quatre publics qu'on a vus ensemble la semaine dernière, ces quatre, personnages, je ne sais pas où tu te situes, ou peut-être qu'il y a encore d'autres choses, mais est-ce qu'on pourrait prier ensemble? Et là, j'aimerais que tu fasses un peu une spéléologie intérieure, une enquête interne en disant, Seigneur, est-ce que je crois que tu es ressuscité? Est-ce que je crois réellement que tu peux tout? Ou peut-être il y a des personnes ici, tu as du mal à croire ça, et c'est OK. Et si c'est ton cas, tu sais, on peut prier pour que, encore une fois, Jésus, comme saint Thomas, Jésus vienne et se révèle à toi. Et puis peut-être des personnes ici, tu es complètement démoli. C'est pas que tu n'y crois pas, mais c'est juste que tu es en échec interne, personnel. Et tu as juste du mal à avancer, tu as juste du mal à marcher avec Dieu et tu as besoin que tout simplement Jésus vienne, prenne un tête à tête avec toi. Et c'est OK. Et puis peut-être que tu es accroché au passé, tes parents viennent à l'église, ça fait depuis des années, et tu te poses vraiment peut-être plus la question pourquoi est-ce que tu le fais. Tu es un peu comme ces femmes. Pourtant, Jésus est mort, ils ne croient pas du tout à la résurrection. Mais c'est comme si elles veulent honorer le passé, elles veulent honorer la mémoire. Et puis, elles sont fidèles, elles sont engagées. Alors que tout le monde a laissé Jésus, elles veulent honorer encore une fois passé. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais encore une fois, les anges disent, tu viens oindre un mort, mais Jésus est vivant. Et du coup, ça change complètement ta foi chrétienne. Ça change tout ton prisme et comment tu es. Et j'aimerais juste que tu te poses la question intérieurement en disant, Seigneur, je suis où dans l'histoire? Je suis où dans cette histoire? Et Seigneur, je te prie maintenant de venir rencontrer chacun et chacune ici, dans ce lieu. que tu puisses relever le monde et relever les gens et les individus. Que toute personne qui est ici, quelle que soit sa vie, puisse avoir un face-à-face avec toi, une rencontre personnelle avec toi. Jésus, on veut profiter de ce que tu nous as acquis à la croix, acquis, en ton nom, Seigneur, on prie maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus, on prie maintenant. Je te prie qu'il y ait des révélations dans les cœurs. Je te prie que ça descende au fond des cœurs. Je te prie qu'il y a quelque chose qui se passe, qui n'était pas avant et qui se fait dès à présent. Au nom de Jésus.